MCQTT, mais c'est quoi ton truc ?
MCQTT, mais c'est quoi ton truc ? Mais c'est quoi ton truc ? Reçoit aujourd'hui Francis Loubatière. Alors Francis Loubatière, il n'est pas connu dans le monde entier. Mais à Toulouse, Francis Loubatière, c'est un nom qui fait vibrer les Toulousains parce que tout le monde connaît les éditions Loubatière, ces livres que l'on a feuilletés en regardant un petit peu le passé de Toulouse. On se disait, tiens, et si c'était moi ? Alors, merci Francis Loubatière d'être ici aujourd'hui à MCQTT, mais c'est quoi ton truc ? Pour nous parler de vous, de l'éditeur, et puis on va découvrir quelques petites surprises au fil de cette émission. Alors Francis Loubatière, je sais que je ne sais plus à qui je m'adresse. Au mousse, au photographe, à l'éditeur, à ce jeune homme qui est arrivé à 22 ans dans le monde de la photographie ou dans le monde de l'édition. Racontez-nous, monsieur Loubatière.
En tout cas, je vous remercie de me recevoir. J'ai débuté dans l'édition, disons, après une carrière militaire, mais j'étais très jeune. Fin de ma carrière militaire, c'était à 22 ans, vous imaginez. Et je pensais parcourir le monde après, puisque je l'avais déjà parcouru pendant quelques années. Et j'ai été très attaché à ma région, à ma petite patrie, je peux dire. Et c'est ça qui m'a empêché d'aller voir ailleurs si j'y étais. Et là où j'étais bien, c'était chez moi. Je suis né dans un lieu extrêmement particulier, qui est l'île de Naurouze. Je dis l'île parce que je suis né au Moulin et c'était entouré d'eau. Et là, j'ai vécu quasiment, c'était en 44, pendant quelques années au Paléolithique. Je veux dire, la guerre de 14, bien sûr, était passée par là. Mais j'ai vécu vraiment à l'ancienne, où on vivait des produits de la terre, de la chasse, de la pêche. Et c'est ce qui m'a forgé. En plus, c'est un lieu extrêmement mythologique. Quand je pense à ce... Et je vais souvent dans ce lieu qui est à côté de Toulouse.
Oui, les Toulousains connaissent le canal du Midi, le seuil de Naurouze.
Naurouze, c'est un géant. C'est un peu un géant has-been, d'ailleurs. Has-been, un peu curieusement. Parce que la légende dit, quand il était dans ces terres du Lauragais, le géant qui était avec son grand paquet de pierres, il questionnait quelqu'un et qui lui dit « Où tu vas comme ça ?» Et il dit « Avec mes pierres, je m'en vais construire Toulouse. » Et la personne lui dit « Mais c'est déjà fini, Toulouse c'est fini. » Alors il a posé ses pierres, ces fameuses pierres de Naurouze dont parle Nostradamus, et il a posé ces pierres-là. Et donc ces pierres, c'est des... quartier de Poudingue tertiaire qui viennent des moraines des Pyrénées. Et là, c'est là que tout a commencé. Pour moi, Naurouze, ça commence donc, pour moi, au tertiaire, et ça finit évidemment aujourd'hui avec l'autoroute, l'aviation, Riquet, Napoléon. Enfin, on ne tarirait pas de propos sur ce lieu-là que je fais parfois visiter à des amis.
Vous parlez de Naurouze, mais vous êtes parti dans la marine.
Oui, je suis parti à 16 ans. C'est jeune, c'est même trop jeune pour partir à l'armée. Mais enfin, peut-être que mes parents ne pouvaient pas ou n'avaient pas envie de me payer des études longues, parce que je suis d'une famille de meuniers. Il aurait fallu que je parte en Suisse. Apprendre à l'allemand, tout ça, c'était pas mon truc. C'est peut-être pas dans mes possibilités, d'ailleurs. Et mes lectures de Garneret, des marraines de Surcouf, de Loti, de mon frère Yves, d'Asiadé, tout ça, me faisaient rêver un peu à la mer. Mon père avait été marin, et donc je me suis engagé comme mousse à 16 ans. C'est peut-être trop jeune, mais enfin pour moi ça allait. Ça a été pas mal. J'ai fait une année là-bas à Brest, où j'ai appris pas mal de choses, le matelotage. Je suis bien sorti et j'ai eu un poste de photographe à Rochefort, une école de photographe. Et je peux dire que c'est de là que s'est développé, enfin que s'est initié ma vocation. J'ai fait de la photo pendant quelques années. Puis au bout de 6 ans d'engagement, j'aurais pu rester. Et comme la chose militaire n'était pas mon fait tout à fait, pourtant j'étais bien. Sincèrement, j'étais bien.
Comment passe-t-on de la photographie à l'édition ?
Quand je suis parti de l'armée, je pensais, j'avais rencontré des aventuriers en Islande, à Panama. Je pensais partir voir si j'étais, si je pouvais vivre ailleurs. Et ma mère a passé une annonce dans la Dépêche. Elle me voyait mal partir, elle me tenait un peu près d'elle. Et en m'étant jeune photographe, elle cherche un travail. Et, allez, c'était, nous étions en 66. Et à l'époque, c'était vraiment pas difficile de trouver du travail. Et j'ai eu deux ou trois propositions. Et je suis rentré chez un éditeur de cartes postales à Toulouse. C'était mon métier, la photographie. Et là, j'ai fréquenté les libraires, les tabacs, tout ce qui était photo. Et j'ai compris qu'il y avait un poste dans l'édition. Et c'est là que je me suis lancé dans l'édition. J'avais vu que c'était possible.
Pas n'importe quelle édition. Il n'y a pas de polar chez Louvatière.
Si, il y a eu des polars, parce que pour moi, l'édition, c'était un tout. Je veux dire, j'ai fait des polars, j'ai fait des livres de cuisine, j'ai fait des romans, j'ai fait des bandes dessinées, des biographies mille et une. Et donc, mon problème, et c'est pour certains un gros mot, c'était le mot régionaliste. Et moi, je suis profondément régionaliste. Et même dans cette mouvance politique où on parle de région, pour moi, les régions, c'est la paroisse, le diocèse et les grandes régions, que ce soit le Rouergue, le Béarn. Pour moi, les régions ont un fait linguistique, ce que les politiques n'appréhendent pas toujours.
Donc, le Pays d'Oc.
Le Pays d'Oc, le Rose, le Lauragais. Un Pays d'Oc qui va, bien sûr, qui pour moi en tout cas, qui va de... Un Pays d'Oc entre deux mers et trois montagnes. La Méditerranée, l'Atlantique, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Voilà le Pays d'Oc. Enfin, pour moi, mon Pays d'Oc, ça s'arrêtait au Rhône, en tout cas. Et donc là, mon travail éditorial a consisté à explorer ces différentes régions, ces différents pays, ces hommes et toutes ces richesses.
MC QTT, mais c'est quoi ton truc ?
Alors, vous avez eu, Francis Loubatière, la gentillesse d'amener quelques ouvrages de vos éditions, et il y a quelque chose de surprenant. Dans ces Pyrénées que nous aimons bien ici, il y a quelque chose de surprenant. Édition Loubatière 1975, Robinson Crusoé dans les Pyrénées. Quesaco, comme on dit ici. Robinson Crusoé dans les Pyrénées.
Robinson Crusoé, c'est une création de Daniel Defoe, journaliste dans les années au XVIIe siècle, qui était venu enquêter dans la région, notamment à Toulouse. Il avait l'intention d'écrire son Robinson Crusoé. Et les gens le connaissent très mal, Robinson Crusoé, parce que quand on le lit bien, à la page 330, par là, on voit qu'il est venu à Toulouse. Et il voit la lumière de Toulouse. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Robinson Crusoé ? Il nous dit, il a eu beaucoup d'aventures maritimes, et il dit... Il vaut mieux voyager sur la mer plutôt que sur la terre. Et il nous explique. Donc il est venu, il était à Lisbonne, c'était un riche planteur, Robinson Crusoé. Quand il est, après son séjour dans l'île, ses affaires avaient prospéré. Et il est venu à Lisbonne, puisqu'il était en Amérique du Sud. Il est venu à Lisbonne, et puis il s'est dit, tiens, au lieu de prendre la mer, je vais venir sur la terre. Et il est remonté sur Pampelune, où il a eu diverses aventures. Et au lieu de passer par le Pays Basque, il est passé par la Vallée d'Or. C'est dans l'ouvrage. Et là, c'était l'hiver, c'était très difficile. Ils ont été attaqués par les loups, 300 loups. Un homme a été dévoré, les chevaux ont été dévorés. Enfin, grâce à Vendredi, qui s'est battu contre un ours et qui a eu plein d'aventures, ils sont arrivés à Toulouse, dans une lumière magnifique. Donc... je vois toujours Robinson Crusoé débarquant du côté du Pont Neuf. Voilà, pour moi, c'est il m'arrive de faire pour des amis des visites de Toulouse, et je la fais toujours commencer par cet homme qui débarque, arriver du pays de Gascogne au pays du Languedoc avec un noir et un aigle, et, pardon,
Un aigle sur le dos.
Non, c'est pas un aigle sur le dos. C'est un perroquet sur le dos et c'est Robinson Crusoe, je l'imagine. C'était l'époque de l'ouverture du canal du Midi. Je l'imagine venir à ce qui est devenu Matabio, venir voir l'écluse de Matabio et le canal du Midi que tout le monde venait visiter à l'époque. C'était le must. C'est comme le viaduc de Millau, c'était le canal du Midi.
Toute rouge de briques dans la poudre rouge du soir.
Voilà.
Pour décrire
alors,
Toulouse.
Évidemment, il y a peu de gens, sincèrement très peu de gens, qui savent que nous avons Robinson Crusoe dans nos héros. Mais des héros, il y en a bien d'autres.
Ah, il dit de Toulouse, nous ne trouvâmes ni neige, ni loup, ni rien de semblable, mais un climat chaud et un pays agréable et fertile.
Voilà. Et alors donc, ça c'est un exemple de ma passion pour notre terre.
Alors, les auditeurs de MCQTT peuvent trouver Robinson Crusoe dans les Pyrénées aux éditions Loubatière.
Oui.
On leur conseille ce livre parce que, comme vous l'avez précisé,
parce qu'il est très beau.
Peu de gens, les illustrations sont... Alors justement, les éditeurs, comment un éditeur aujourd'hui, ou à votre temps d'édition, faisait pour trouver des illustrateurs aussi superbes et des illustrations aussi superbes.
Toulouse est une grande ville d'illustrateurs. D'ailleurs, on le voit maintenant, puisqu'il y a des gens qui ont repris Achille Talon, qui reprennent plein de d'illustrateurs qui sont maintenant décédés. Il y a une grande école d'illustration. Il y a eu Milan qui a beaucoup fait pour l'illustration. Et les illustrateurs sont très sollicités dans l'ensemble. Mais en général, la plupart des livres, ce sont des commandes d'éditeurs. C'est-à-dire que c'est souvent l'éditeur qui a le sentiment que quelque chose va fonctionner et passe des commandes à des auteurs ou des commandes à des illustrateurs. Bien sûr, il y a tout un tas de savants. Nous avons une université extrêmement florissante, tout azimut. Et ces universitaires, qui sont généralement de très gros travailleurs, nous proposent des travaux, souvent des thèses qu'on retravaille pour qu'elles deviennent plus publiques.
Peut-on vivre de cela ? Nos auditeurs sont des auditeurs du monde de l'entreprise, des cadres. Peut-on vivre aujourd'hui de l'édition, cette passion que vous avez chevillée au corps ?
On peut vivre de l'édition, bien sûr, on peut vivre de l'édition, à condition de ne pas prendre ses désirs pour les réalités, de bien regarder les tirages, et d'être gestionnaire avisé. Maintenant, il y a en France très très peu d'auteurs, 50 ou 100, qui vivent de leur plume. Hein. Donc il vaut mieux avoir un travail à côté quand on est auteur.
Vous dites ça, mais j'allais aborder le sujet. L'éditeur est riche, l'auteur est pauvre.
L'expérience montre, je crois, que l'éditeur tire le diable par la queue. Et c'est un métier extrêmement difficile.
De nos jours, on peut devenir éditeur sans structure, en mettant simplement un lien, auteur, imprimeur.
Voilà, avoir des idées. Après, ça devient compliqué parce qu'il faut diffuser. Et quand on avait un secteur éditorial comme le mien, qui était régional, on ne pouvait pas... Enfin, j'avais résolu ce problème en ayant moi-même une force de diffusion. Et c'est ce qui m'a permis de tenir 30 ou 40 ans.
C'est-à-dire une force de diffusion ?
C'est-à-dire que j'avais des représentants de commerce qui ne travaillaient que pour moi, enfin des représentants quoi, d'édition, et qui allaient voir dans tout ce grand secteur, qui allaient voir les libraires et qui leur proposaient des livres chaque fois qu'ils en sortaient, regardaient s'il n'en manquait pas dans leur fond. Parce que j'ai toujours fait des livres, en gros, des livres de fond. C'est-à-dire qu'un livre que j'ai fait il y a 30 ans, 40 ans, et il y a 20 ans ou 10, on peut encore le lire et il a de l'intérêt. On n'est pas dans le roman qui passe vite. On n'est pas tenu par la rentrée éditoriale où 700 romans sortent tous les ans et où une trentaine émerge. Voilà, donc j'ai généralement fait uniquement des livres de fond. Et c'est pour ça que j'avais ce que j'appellerais un fan club.
À vous entendre, on entend un poète. Un éditeur, c'est rien, m'avez-vous dit, c'est une tête qui se promène.
Oui, c'est une tête qui se promène et qui est à l'écoute. bien sûr. Alors si vous dites poète, évidemment, ça me fait obligatoirement penser à Delteil, qui pour moi est un auteur phare de notre Midi, puisqu'il a été pris féminin dans les années 24. C'est un auteur phare et c'est aussi un sage.
Vous avez publié Joseph Delteil, Un habit de lumière.
C'est une proposition qui m'a été faite par un homme que j'aime beaucoup, qui est maintenant général des douanes à la retraite, qui était de fond couverte et qui était un fou de Delteil. Et quand il m'a proposé cet ouvrage, j'ai pas hésité une seconde. Et c'est un ouvrage qui a bien fonctionné. Il m'a même proposé un autre, parce que Delteil est un ami de Richaud, un autre poète noir. Et Delteil est toujours à la mode. Encore ces jours-ci, nous étions sur ses terres à Villars-en-Val. Et c'était une 30e manifestation autour de Delteil. Et là, il y a vraiment. C'est un homme qui a aussi un grand fan club, puisqu'il y avait. Il y avait le grand auteur, le grand musicien catalan Jordi Savall qui est venu l'honorer. Voilà, et donc on lit toujours on peut toujours lire Delteil. Et il y a même dans cet ouvrage un poème splendide de Vladivostok. Et je l'avais édité depuis quelques années, puis je me suis dit, ce poème il est vraiment formidable. Et comme j'avais des relations dans les compositeurs et les gens qui s'occupent de la musique, et notamment de la mélodie française, on a fait mettre en musique quelques poèmes de Delteil, notamment ce fameux Vladivostok. Et c'est pour moi une grande satisfaction que les fans de musique française puissent écouter, entendre Delteil enregistré par les plus grands compositeurs.
MCQTT, mais c'est quoi ton truc?
Dites-moi, Francis Loubatière, la Catalogne, le Languedoc, l'Aude, Naurouze, les Pyrénées, Toulouse, et le monde dans tout ça?
Eh bien, le monde, c'est ça. Pour moi, mon monde, c'est ça. J'ai voyagé, puisque j'ai pas fait complètement le tour du monde, mais j'en ai fait une grande partie. Mais mon monde, je l'ai trouvé là, et ça m'a suffi. J'ai eu des centaines d'auteurs, d'amis, des gens que je rencontre encore, avec qui j'ai des relations. Et donc, ça suffit pour combler ma vie. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas allé voir de temps en temps si j'étais ailleurs. Et notamment, des fois, j'ai eu des nostalgies de Valparaiso, de Machu Picchu. Et ça m'est arrivé de tout seul prendre mon sac à dos et d'aller sur les traces de Neruda, de l'Isla Grande. Mais mon monde, c'est vraiment ma terre ici. J'ai les pieds dans la boulebène du Lauragais.
Très bien. Écoutez, comment dire à nos jeunes aujourd'hui cette passion? Ils écoutent là, ils veulent réussir. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible de réussir en restant chevillé à une région et en transportant la vie de la région?
C'est possible et vivement conseillé, à une condition, une seule condition, c'est d'y croire et d'être passionné. Évidemment, de travailler. Parce que rien ne vient sans travail et sans mal, souvent. Mais les méthodes modernes d'investigation, de travail, Internet et compagnie, permettent à des jeunes que je vois maintenant, ils montent des systèmes qui s'intéressent au monde entier, du style Google ou j'en sais rien, des trucs que je ne connais pas, puisque c'est pas du tout, je ne suis pas du tout dans ces domaines-là. Mais je vois des jeunes qui m'étonnent et qui ont des ambitions. Et puis on peut être un jeune viticulteur, on peut être un jeune cuisinier. Je crois que on a plus de chance aujourd'hui qu'avant. On ne va pas faire ni dans l'amorosité, ni dans la nostalgie. Le monde est devant nous. Prenons l'œuvre à le corps.
Vous avez œuvré pour que la région soit connue dans le monde entier, pour transmettre un peu aussi le savoir, l'histoire de cette région. Y a-t-il encore aujourd'hui, Francis Loubatière, de bons éditeurs régionalistes ?
Oui, des bons éditeurs régionaux, bien sûr. Il y a déjà il y a Privat, et qui est l'ancêtre des Toulousains, un des ancêtres des éditeurs toulousains récents, disons, hein, puisqu'on est fin 19e, qui a démarré, lui, avec le catéchisme. C'était l'éditeur de Saint-Étienne. Mais j'en connais un, par exemple, qui est à Pau, qui s'appelle Kern, qui est un éditeur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui travaille, et à qui j'envoie parfois des livres qui me semblent intéressants, et qui réussit assez bien, mais c'est difficile. Il s'accroche et il se bat. Il se bat. Voilà.
Il y a Francis Loubatière, j'ai entre les mains une bande dessinée, Mirguette et Toustounet. Ce n'est pas tout à fait une bande dessinée, tout de même. Et alors, à la feuilletant, Mirguette et Toustounet, je découvre Boule et Bill, notamment La Veillée. Racontez-nous cette bande dessinée.
C'est un ouvrage qui était destiné à nos enfants pour apprendre l'occitan, enfin, ou en tout cas l'appréhender. Et j'ai fait beaucoup de. J'ai fait cet ouvrage est à la fois moitié occitan, moitié français. J'ai fait une bande des bandes dessinées entièrement en occitan, mais celui-là, c'est un ouvrage qui est destiné aux enfants et qui vont leur apprendre à vivre un enfant occitan, à apprendre les jeux traditionnels, les paroles traditionnelles qui conviennent savoir. Mais je suis dans la mouvance des calendrettes, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui apprennent l'occitan.
Oui, les calendrettes d'ailleurs qui voilà, peuvent aller jusqu'au lycée aujourd'hui.
Voilà, les écoles bilingues, et puis voilà, ce n'est pas un handicap d'apprendre notre langue.
Alors, pour nos auditeurs, Mirguette et Toustounet, aux éditions Loubatière. Intéressant ?
Voilà, oui, magnifique petit ouvrage.
Magnifique petit ouvrage.
Voilà, j'ai œuvré aussi dans la bande dessinée. J'ai même commencé par là, parce qu'on était dans les années 70, on était en plein catharisme, et je me suis dit, parce que quand même, il faut penser à l'avenir, je me suis dit, voilà un secteur qui va fonctionner, et il a fonctionné. Et ça n'existait pas, et j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Émeric et les Cathares. J'étais fou, j'en ai fait 20 000. C'était un tirage énormissime. Mais il se trouve que je l'ai vendu. J'avais pris un bon dessinateur, Forton, le petit-fils des Pieds-Nicolet, un neveu de l'inventeur des Pieds-Nicolet, et puis Michel Roqueberg, qui était quand même le spécialiste pour la dépêche, celui qui a fait découvrir les châteaux cathares à cette époque-là. Voilà. Et j'ai fait beaucoup d'ouvrages très sérieux, des essais, avec la directrice du centre d'études cathares. On a fait beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur le catharisme. On a bien investigué dans ce domaine-là. Et toujours dans le sérieux, on n'a jamais été dans un ésotérisme fumeux, j'allais dire. Voilà.
Francis Loubatière, cette vie chargée d'édition au service de la région, cette vie de passion, quelle trace elle laisse en vous ?
Eh bien, voilà, c'est un travail que j'ai arrêté. Elle me laisse beaucoup de satisfaction. J'avais le désir, présomptueux sans doute, de laisser une trace, comme le limace. Il reste quelque chose, tiens, ce type, il a œuvré. Et je crois que c'est un peu vrai, parce que des générations, on est dans toutes les... Chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la région, souvent, il y a une référence, vous voyez, tel livre de Loubatière.
Voilà. Ah oui, le nom Loubatière est accroché voilà. De façon définitive aux éditions Loubatière.
Voilà, parce qu'on œuvrait sérieusement.
Ouais. Éditions Loubatière qui poursuivent leur activité.
Oui, qui sont toujours en activité.
Voilà. Toujours pour la région.
Un peu moins. Bon, une personne qui travaille avec moi... a des idées un peu différentes, parce que l'éditeur c'est quand même particulier, c'est quelqu'un qui a des idées, mais toujours sur la région. Oui, encore, ils font toujours des livres sur Toulouse.
Alors j'ai envie de vous poser une autre question. Tout à l'heure vous parliez du téléphone portable, j'ai envie d'évoquer Internet, la lecture, le livre, à la réflexion, Internet, Est-il en train de supprimer la lecture, supprimer le livre? Le livre va-t-il, selon vous, continuer à avoir la part belle? Vous voyez ça comment, avec autant d'années passées à fabriquer des livres?
Moi, je ne suis pas un vaste pratiquant d'Internet, mais je suis souvent rue Gambetta, librairie Ombre Blanche, et on voit toujours énormément de... Toujours énormément de monde. Bien sûr, dans le temps, j'ai lu des ouvrages des années 60, à l'époque, il y avait 52 librairies à Toulouse. Et quand je me promène en Toulouse, je vois surtout les librairies qui manquent. Donc, ça veut dire qu'il se fait sans doute moins de ventes, qu'il faut être plus court sur les tirages, les méthodes d'impression ont beaucoup changé. On peut tirer, on n'est pas obligé de faire 3000 ou 5000 livres. Maintenant, quand c'est des livres d'écriture, il s'en fait 300, 500, on peut avoir un réseau qui permet de fonctionner.
On est à Toulouse. On est à Toulouse et on ne peut pas se quitter sans parler d'un personnage. Et je crois que, en quelque sorte, vous êtes l'instigateur de ce qui s'est passé il y a quelque temps à Toulouse. Racontez-nous.
Toulouse, mon pays. Toulouse est une ville qui n'aime pas beaucoup la statuaire hein, depuis quelque temps. D'abord, on n'a même plus, depuis 40, on n'a plus de statue de Jaurès en pied. Dieu merci, nous reste Goudouli à marbre. Et un personnage que nous aimons beaucoup, tous à Toulouse, on peut le dire, hein, c'est Claude Nougaro. Et j'avais envie qu'il y ait une statue de Claude Nougaro et j'ai contacté Hélène Nougaro, qui au départ n'était pas très favorable parce qu'il y avait une statue en chocolat qui était rue de Languedoc qui ne lui plaisait pas du tout. Enfin, avec mon ami Amen, on a réussi, des éditions Milan, on a réussi à la convaincre et il a été réalisé par un sculpteur toulousain, Stéphane Langlois, qui est rue des Polinaires, au Carme. On a réussi à monter cette affaire statue de Nougaro qui a été mise en place devant le donjon du Capitole. Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Et je suis persuadé qu'une foule d'admirateurs et de touristes viendra prendre Nougaro dans ses bras pour se faire prendre en photo et garder un souvenir inoubliable, je crois, de Toulouse.
Francis Loubatière, merci d'avoir consacré un moment de la journée à MCQTT, mais c'est quoi ton truc? On était à Toulouse, les auditeurs l'auront compris, on était au cœur de cette région que vous aimez tant, que vous transportez dans votre cœur, on l'a senti. Et puis les auditeurs qui veulent poursuivre peuvent chercher Édition Loubatière, voilà. Crusoé, Delteil. Merci à vous, merci beaucoup Francis Loubatière.
Mais à votre service, merci.
MCQTT, mais c'est quoi ton truc ?